Pas de répit pour pas de répio. Aujourd'hui, épisode 1, Pio aux voix rouges. Deuxième partie.
Que je suis le confesseur le plus zélé de toute l'Italie. Il est vrai que je reçois des fidèles au quotidien, parfois 10 heures, 12 heures dans une journée. Le père Anastasio a d'ailleurs dû imposer des règles strictes. Il est interdit à un fidèle de se présenter à la confession s'il a déjà reçu l'absolution dans la semaine. Il pense même distribuer des tickets numérotés. Qui sait, bientôt nous organiserons peut-être une tombola pour me voir. Après tout, si cela peut permettre de rénover la petite chapelle. Mais, Seigneur, comprends-tu pourquoi je t'ai demandé de retirer ces stigmates que tu as imprimés à mon corps? Le comprends-tu? Ton fils a souffert et s'est sacrifié pour nos péchés. Et tu me crois capable de supporter une charge comme celle-ci? Ah, que vois-tu en moi, Seigneur, que je ne vois pas? Je sais, je ne peux décemment pas décevoir les foules qui s'amassent sous les fenêtres du couvent. Après tout, si tu m'as donné les stigmates, ce n'est pas pour que je les contemple seul du fond de ma cellule. Et pourtant, je les dissimule, jour après jour, sous de vieilles mitaines qui font à peine illusion. J'ai bien remarqué que Tommasino les cherchait du regard, ces plaies divines. Tous veulent les voir. Tous veulent te voir à travers elles. Elles sont les preuves de ton amour et il est de mon devoir d'en témoigner auprès de tes fidèles. Est-ce en compensation de ce lourd fardeau que j'ai également reçu de toi ce don de me trouver en deux endroits au même moment? Je t'adore ici, à San Giovanni Rotondo, comme je t'adore à Milan. Je décidai de revenir dans la petite église milanaise où Francesco m'avait emmené. Ne sachant que faire de cette histoire de meurtre, je décidai d'arpenter le vieux bâtiment. Une fresque du Bramantin représentait le Christ mort et Saint Jean effaçant une larme de sa joue. Derrière lui, Antoine l'Égyptien observe la scène. Je crus à un signe. Antoine avait décidé de se retirer du monde pour prier seul. Mais suivi par des fidèles toujours plus pressants, il finit par consacrer moins de temps à sa prière et davantage à la recherche d'un havre de solitude. La vie d'Anachorète n'est pas de tout repos. Je sortis. La place semble éterne et menaçante. Sur ma droite, j'aperçus la bibliothèque. J'entendis derrière moi une conversation animée. Elle émanait du perron du palais Castani, qui fait face à l'église. On dit que les Milanais sont parmi les Italiens les plus élégamment vêtus. Nul doute alors que ces hommes fussent des locaux. La distance et l'éclairage public ne me permettaient pas de distinguer des visages, mais je voyais des mouchoirs de poche de toutes les couleurs ainsi que quelques tenues militaires d'apparat. Un homme, s'appuyant sur une modeste canne, prit la parole et tous l'écoutaient solennellement. Longeant les façades des immeubles, je m'approchai d'eux. Avec la discrétion d'un moine. Au milieu de ce petit rassemblement, j'aperçus une main agitée, faisant tourner machinalement des perles d'un bois sombre, trois par trois, le chapelet de Saint-Antoine de Padoue. Les hommes semblaient parler affaire. J'entendis plusieurs noms qui ne m'évoquaient rien à moi, pauvre curé du sud du pays, mais qui semblaient inspirer dégoût et puanteur à ces hommes distingués. Que faisait un ouvrier automobile aux côtés d'hommes venant d'un monde vraisemblablement bien différent du sien? Ils se mirent à marcher vers une destination commune. La bande s'était répartie en petits groupes de deux ou trois pour discuter plus discrètement. Ils tournèrent dans la Via Zecca Vecchia que j'avais empruntée de retour de l'usine. Arrivé près du perron, où les hommes avaient fini leurs cigares, je pus lire sur une petite plaque dorée « Palais Castani, cercle des industriels lombards ». Ma curiosité était piquée. Je voulais en savoir plus. Francesco semblait apprécier son défunt patron, paix à son âme, mais il était évident que les deux hommes n'appartenaient pas à la même classe sociale. Oh, maudit Tomasino! Voilà que je parle comme lui désormais. Depuis notre rencontre la veille, il m'était poussé des idées nouvelles. Mais qu'importe pour le moment. Je décidai de filer la petite troupe, maintenant à ma distance. J'envisageais de me cacher au coin des rues, de dissimuler mon corps derrière les véhicules, à l'abri de l'éclairage public. Je m'élançais discrètement dans une mission qui me dépassait. Au premier coin de rue, craignant qu'un des hommes ne se retourne, je fis un léger bond sur ma droite pour laisser cet escadron milanais prendre quelques pas d'avance supplémentaires, quand je fus bousculé vivement par un homme au moins aussi pressé que moi.
Pardonnez-moi, mon père,
cette voix m'était familière. J'essayais de la garder à l'esprit jusqu'à trouver l'identité de celui qui m'avait mis au sol, mais je sentais un battement sourd dans mes tempes. Je ne pouvais me concentrer. Je me sentais défaillir. Je me sentais partir. À tâtons dans la rue, essayant de reprendre mes esprits, je mis la main sur l'objet métallique que mon innocent assaillant avait laissé derrière lui. Qui était-il? Pourquoi m'avoir abandonné là, souffrant, pauvre abbé que je suis? Je levai une dernière fois les yeux, mais ces derniers ne distinguèrent qu'une silhouette sombre, éclipsant partiellement l'éclairage public. Je sentais mes forces m'abandonner. Et ces coups, je... Oh, Seigneur, je...
Mon frère, pourquoi ce cri? Que vous arrive-t-il? Répondez, mon frère! Pio, mon frère, réveillez-vous! Oh Seigneur, ses yeux sont totalement révulsés!
C'est donc ainsi qu'Anastasio me trouva. Littéralement sur le carreau de ma fraîche cellule, incapable de bouger. Pourtant, je devais retourner à Milan et au plus vite. Certes, j'avais eu de la réticence à aider ce pauvre jeune homme lombard et son père, mais quelque chose dans cette histoire ne me semblait pas juste. Après tout, peut-être que le père méritait sa place en prison. Peut-être avait-il effectivement poignardé son patron, paix à son âme. La justice des hommes sait être efficace. Mais les contours de cette affaire me troublaient plus encore que son cœur, et ce pour une raison qui m'échappait encore.
Respirez. Mon pauvre Pio, vous semblez si souffrant. Voulez-vous que...
Pio, quelle est cette lame que vous tenez? Voyez votre main, si blanche, votre poing si serré autour de ce poignard. Il n'appartient certainement pas aux cuisines de Santa Maria delle Grazie. Où l'avez-vous trouvé? Et quel usage en avez-vous?
Je fus sommé de répondre à de nombreuses questions dont je ne connaissais que partiellement les réponses. Je ne pouvais me confier sans phare à ce cher Anastasio. Je crus bon de garder pour moi les secrets de mes apparitions à l'autre bout de l'Italie, quand bien même des fidèles de plus en plus nombreux affirmaient m'avoir vu et entendu en divers endroits du royaume. Je prétextai une nouvelle apparition des âmes du purgatoire pour expliquer mon sommeil agité. Puisses-tu me pardonner, Anastasio? Un jour, je te dirai tout. J'eus plus de difficultés à expliquer la présence du poignard dans ma main. Ce fut bien la première fois que je ramenais un objet d'une de mes escapades en esprit, et la soirée au couvent se déroula de manière fort désagréable. Anastase ne cessait de m'observer, attendant une réponse à la seule question qu'il ne m'avait encore posée. Pourquoi moi ? Essayant d'éviter son regard, je réfléchissais à la meilleure façon d'aborder la suite de l'affaire milanaise. Il me sembla opportun de discuter avec Francesco de la relation entre les ouvriers et le défunt patron, et à son âme, afin d'établir une liste des suspects dans le meurtre de cet homme. Et peut-être lui demanderai-je de prier Saint Antoine afin de m'aider à retrouver le propriétaire du poignard abandonné. Mais pour l'heure, je n'étais capable de rien d'autre que de me coucher sur ma paillasse et de me reposer de ces aventures milanaises. Dès l'aube, je m'en revins à Milan. Bien que celle-ci fût éloignée de l'usine, je pris soin de me mettre en chemin depuis la petite église de Saint-Sépulcre, où l'on m'accompagnait la veille. J'arrivai à l'usine en même temps que de nombreux ouvriers à pied ou à bicyclette. Ayant quitté le bâtiment à la nuit tombée, je fus déboussolé au matin. J'espérais fortement croiser le chemin de Francesco quand j'entendis tonner derrière moi une voix familière.
Hé, hey, ciao, curé! Eh bien, vous passez la nuit ici?
Non, rassurez-vous.
Giuseppe. Mais ici, tout le monde m'appelle Beppo.
Beppo. Non, votre collègue Francesco m'a accompagné jusqu'à Saint-Sépulcre, où je pus me reposer.
Bah, repère de fascisti. Ne vous éternisez pas là-bas, mon père. C'est là mon conseil. Et alors, pourquoi vous revenez nous voir à l'usine? Vous ambitionnez le poste vacant? Vous n'avez pas fait vœu de pauvreté ou quelque chose comme ça?
Eh bien, si, c'est exact. Enfin, je veux dire que...
Allons, mon père, c'est une plaisanterie. Allez, dites-moi tout. Cette fois, ce sera moi le confesseur. Qu'est-ce qui vous tracasse, mon père?
J'ai entendu dire qu'un homme était en prison, et je m'inquiète de son sort. Adamo Tarisi est son nom. Vous le connaissez?
Pardi, oui. Un camarade du conseil ouvrier. Lui avez-vous parlé récemment?
Pas encore, non. J'ai rencontré son fils, Tomasino. Il s'est caché dans les Pouilles quelques jours pour échapper à une menace des actionnaires, je crois.
Pour échapper à une menace des camarades et moi, plutôt. Ah, le morveux. Que je le revoie s'approcher de l'usine.
Et comment? Qu'a-t-il à se reprocher?
C'est un fuyard. Ici, à l'usine. On l'a pas vu depuis l'assassinat du patron. Il y a 6 mois, après les négociations, le voilà qui nous prend un parti, devant toute l'assemblée des ouvriers. On fêtait la journée de 8 heures, durement obtenue et sans violence, pas comme dans les campagnes, mon père, juré. Il nous appelle des traditori, des codardi. Mais les camarades et moi, on n'est pas des traîtres et on n'est pas des lâches non plus, alors on ne sait pas faire. Son père l'a attrapé par le col et lui a flanqué une sberla qu'il n'oubliera pas de sitôt. En larmes qu'il est reparti, le gamin. 2 semaines plus tard, il demandait à changer d'atelier. Même le patron qui en avait eu vent s'est moqué de lui, une schiaffo devant tous les gars. Le chef lui a dit que c'était bien la première fois qu'il était d'accord avec nous. C'est la secrétaire qui nous l'a raconté. De vous à moi, mon père, ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui qui... Enfin, vous voyez quoi, pour se venger. Bon, ouais, c'est pas tout ça, mais je vais être en retard avec ces histoires. Allez, ciao.
Attendez, Giuseppe. Une dernière chose. Où puis-je voir le père Terlet ici? Où est-il emprisonné?
Pourquoi, ça vous intéresse? Bah, après tout, allez voir à la prison San Vittore. Vous l'y trouverez.
Tant pis pour Francesco. Après tout, j'étais venu à l'usine en quête de nouvelles informations et... voici que j'en apprenais de bien bonnes sur le compte de Tomasino. Sans tarder, je pris le chemin de la prison, bien déterminé à entendre la version du principal accusé, Adamo Tarisi. Même si lui et son fils étaient fâchés, je n'osais imaginer un père laissé son enfant sans défense. Mais s'il s'était laissé accuser pour protéger Tomasino, pourquoi ce dernier serait-il venu à ma rencontre? Le père Tarisi pourra certainement m'aider à y voir plus clair.
Et on peut savoir qui vous êtes?
Je lui racontai toute l'histoire, ou presque. Son fils, caché dans les pouilles, venu me demander de l'aide en désespoir de cause. M'a venu à Milan pour tenter d'y voir plus clair. Mes visites à l'usine. Je lui dis que j'avais appris pour son fils et l'humiliation subie. Je lui répétais encore. C'est Tommasino qui est venu me trouver pour le sortir de cette sinistre prison.
Mon unique fils m'a appelé un lâche devant les camarades de l'usine. Il prétend avoir été abandonné. Mais il a renoncé à la lutte. Puis il a fui, incapable de me regarder dans les yeux. Qui a abandonné qui ?
Pardonnez-moi, je tente de comprendre. Vous dites, il prétend avoir été abandonné. Pourquoi ? Que s'est-il passé ?
Il y a 6 mois, avec les camarades, on va réclamer auprès du patron une amélioration des conditions de travail. On dit au patron qu'on ne veut pas travailler plus de 8 heures par jour, comme ils ont en France. 1920, nouvelle décennie, nouveaux droits des travailleurs. C'est ça qu'on a demandé. Mais le patron, il refuse. Il dit qu'il ne laissera pas les bolcheviks prendre les décisions dans son usine. Alors, on fait grève, comme partout ailleurs dans la région. Et le patron, il sent bien qu'on lâchera pas. C'était pas un mauvais bougre. Il avait toujours été plutôt cordial. Donc, après quelques semaines de lutte, quand il entend qu'à Turin, les anarchistes prennent le contrôle des ateliers, il propose qu'on s'arrange. Alors, on discute. Voyez, le patron, il dit, va pour la journée de 8 heures. Mais il n'y a pas de raison, quand on est jeune, ça pose pas de problème. Alors c'est seulement pour les ouvriers de plus de 40 ans, et pas pour les prochains qui seront embauchés. Alors nous on dit, va bene, mais 35 ans. Va bene. C'est ça qu'il a pas aimé, le gamin. Et voilà qu'il nous traite de suppôts du patron, de jaune. Il l'a pas volé, cette boffe. C'est pas nous, les jaunes, les croumiris. Nous, on s'est battus. Qu'il aille demander des explications à Benalia et sa bande. C'est eux qui voulaient briser la grève.
Benalia. Comme Francesco Benalia? De Padoue.
Lui-même. Vous l'avez croisé, sale type, hein? Il paraît qu'il traîne vers le palais Castani. Vous savez, dans ce qu'ils appellent les faisceaux avec Mussolini et Bianchi. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Ils se disent, proche du peuple. Et dès que le vent tourne, ça va faire la cour au patron et réclamer de l'argent aux petits bourgeois. Ils vont manger à tous les râteliers, ceux-là. Et ça veut diriger l'Italie. Basta. Votre nouvel ami, Francesco, il est comme ça aussi. Aujourd'hui, il est bien content de travailler moins. Mais on l'a pas vu dans les assemblées. Il était bien occupé à embaucher des journaliers pour nous remplacer aux ateliers.
Très intéressant tout cela. Je loge à San Sepolcro, en face du palais. Hier soir, j'ai vu quelques anciens combattants et autres industriels de la région s'attrouper aux portes du bâtiment. Grâce à vous, je comprends mieux ce qu'ils y trament. Je vous laisse à présent, mais si je peux me permettre, faites la paix avec votre fils. Le garçon est brave, il vous aime assurément. À bientôt, signore.
Je quittais le père Tarissi. Il avait la dent dure avec son fils, mais je fus rassuré d'apprendre qu'il ne le croyait pas coupable du meurtre du patron de l'usine. Toutes ces paroles confirmaient mes intuitions de la veille, la dureté de caractère du père Tarissi, l'idéalisme maladroit de son fils Tommasino, l'idéologie douteuse de Francesco, la myopie sociale des ouvriers rouges de l'usine, tout. Le véritable assassin est l'un d'entre eux, j'en suis convaincu. Mais qui ? Je me répétais intérieurement les événements des dernières 24 heures, ainsi que les raisons de chacun d'en vouloir à l'ancien directeur de l'usine. Un gardien poussa la lourde porte en bois, pareille à celle d'une église du sud, et me laissa sortir du bâtiment carcéral. Mon regard fut machinalement attiré sur ma gauche par le son de cloche sonnant 10 heures. Mais levant les yeux, je fus aveuglé par les rayons du soleil se débattant derrière l'église. Moi-même sonné, je mis quelques instants avant de retrouver mes esprits, devant composer avec des apparitions aquarellées devant les yeux. Dans ce brouillard de la vue, j'entendis une voix m'appeler.
« Padre ! Padre ! »
Hey, vous êtes sorti de votre usine, vous. Pourquoi ? Vous ambitionnez la future place vacante dans la prison ? Je vous l'annonce, le père Tarissi y est toujours.
C'est au sujet de Francesco Benaglia. Il a été poignardé, il est mort.